s'il y avait un conseil, si quelqu'un voulait se lancer, c'est vraiment de se lancer le plus tôt possible et de pas hésiter à se lancer en parallèle de son job ou de ses études. Et puis retarder, entre guillemets, le plus possible la création de la boîte, c'est-à-dire tester le plus possible le projet le plus loin possible sans risque.
Hello, hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Ben écoute, bienvenue Alexandre sur le podcast.
Salut, merci pour l'invitation.
Avec grand, grand plaisir. Je suis très, très content que tu puisses nous rejoindre aujourd'hui pour cet épisode. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu d'entrepreneur. C'est ton cas, entre autres choses. Donc, on va pouvoir discuter création d'entreprise, les challenges du quotidien, les petites réussites qui font plaisir. On va également parler de sport, puisque tu vas nous en dire plus, mais le projet dans lequel tu t'es lancé il y a quelque temps déjà, c'est il y a clairement un rapport, c'est dans le sport. Donc curieux qu'on échange sur tout ça. Mais je pense qu'avant qu'on on rentre dans le détail du projet, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu nous expliques d'où est-ce que tu viens, quel a été ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat.
Ouais, bien sûr. Moi je m'appelle Alexandre, je viens d'avoir 27 ans là, cette semaine. Je suis sportif, passionné de sport depuis tout petit. J'ai fait notamment 10 ans d'athlée. Je fais du triathlon et surtout du trail, un peu plus les longues distances. Et sinon, en fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique, de développeur.
Okay.
Et il y a 5 ans, maintenant presque 5 ans, on a commencé à créer une solution dans le monde du sport, une appli qui s'appelle Nolio, pour les coachs et les sportifs dans les sports d'endurance. En milieu d'école d'ingénieur, en fait, et on a créé l'entreprise à la fin d'école d'ingénieur, et là, du coup, ça fait 3 ans que l'entreprise existe.
Ok. Quand tu dis « on », vous êtes combien de
oui,
cofondateurs?
Je dis « on » parce qu'en fait, à la base, on était vraiment deux, avec un pote de ma classe dans les écoles d'informatique, les sportifs, il n'y en a pas tant que ça. Donc un très bon pote qui vient du haut niveau en ski de fond. Et en fait, on a créé ça parce que c'est même lui qui a eu l'idée de base. Après, on s'est lancé à deux. Et en fait, il est venu me voir il y a 4 ans et demi en me disant les fichiers Excel de mon entraîneur, ça me saoule. Est-ce que toi, t'as pareil dans l'athlète ? Je lui dis oui, c'est pareil. Je recopie à la main mes chronos de ma montre dans mon fichier Excel. Et à l'époque, on était là-dedans, pas du tout forcément au fait de ce qui se faisait d'appli, même aux US, etc. Et donc, on s'est dit ouais, putain, c'est quand même con. On commence à avoir des montres connectées où on appuie sur le bouton là dès qu'on fait nos tours de piste, etc. Et on les recopie à la main dans le fichier Excel. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui nous ferait gagner du temps à nous fainéants sportifs et à nos coachs. Et du coup on a créé un petit document, on doit l'avoir encore quelque part, qui s'appelait concept application de sport, quelque chose comme ça, où on a listé en gros tout ce qu'on voudrait améliorer, et on l'a partagé à tous les coachs qu'on connaissait, tous les athlètes qu'on connaissait, et on a eu des retours plutôt positifs sur qu'il y avait un besoin. Et donc là on a commencé. Alors, on savait bien sûr que dire oui à un document, ça veut pas, c'est pas très engageant, mais on s'est dit ouais, ok, on va quand même essayer de s'amuser à faire quelque chose, un prototype pour le faire tester à nous-mêmes et puis à des coachs. Mais à la base, vraiment par envie de faire un projet personnel sur notre temps libre et pour allier le côté développement informatique et le sport. Mais il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée d'entreprise ou de logique économique derrière, quoi.
Ok, ok. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Alors moi c'était pas sur Excel parce que j'étais déjà sur Mac, donc c'était Numbers, mais c'était le même combat, tu vois, essayer de trouver des formules, des indicateurs intéressants à avoir qui puissent s'actualiser en fonction des trucs, enfin des données que je rentrais dans le fichier. Et c'était une galère. Déjà la création du fichier en soi, ça faisait partie du programme d'entraînement, hein. C'est-à-dire qu'il fallait, tu vois, pouvoir imaginer.
Pour les coachs, c'est un temps assez énorme. Et après, c'est vrai que l'avantage du fichier Excel, c'est que c'est ultra personnalisable.
Ouais.
Et nous, du coup, c'est aussi pour ça que dans Nolio, on a gardé la philosophie de ce côté personnalisable, parce que les coachs, ils veulent bosser comme ils ont envie de bosser. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise tu vas travailler comme ça. Et donc, en fait, on a essayé d'apporter, de garder ce côté personnalisable dans l'appli pour qu'un coach qui bosse d'une manière A et un coach qui bosse d'une manière B, de manière très, très différente, ils puissent tous les deux mettre leur méthode de travail sur la plateforme. Mais c'est vrai que la création des fichiers Excel, vous voyez, mon entraîneur, avec 12 onglets, comme tu dis, les formules, etc. Et encore, il y a eu une bascule qui est que moi, à l'époque, c'est vraiment, il me l'a envoyé par mail, le fichier Excel, donc tu avais 15 versions sur ton PC. Déjà, ouais. Le passage avec des choses style spreadsheet de Excel partageable en ligne, ça a déjà simplifié une partie des choses. Mais après, nous, on a eu la chance, enfin, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, que le côté objet connecté, le plus en plus de données qui viennent de ton capteur, de ta montre, etc., et que ça soit pas branché à ton Excel, c'est un peu l'élément qui était évident pour les coachs et les athlètes qui a fait que ça peut être déclencheur de « Ok, je vais tester ton truc parce que le côté récupération automatique des données, je comprends bien pourquoi c'est utile. »
Ouais. Ouais, parce que je me suis… je t'avoue que j'avais déjà vu des articles, des posts de Nolio sur… d'ailleurs, Nolio, N-O-L-I-O, s'il y en a qui veulent aller voir. Il me semble que c'était sur LinkedIn la première fois que j'avais vu des posts sur votre page Nolio. Et donc là, je me suis créé un compte. Je suis allé regarder et j'étais quand même assez impressionné de voir le niveau d'intégration que vous proposez. Et tu vois, surtout, il y a Coros. Je me suis dit, c'est quand même cool qu'il y ait Coros parce que c'est un peu il y a pas mal de services que j'utilise, tu vois, de tracking et autres, où c'est un peu le vilain petit canard, Coros. Tu vois, je pouvais pas connecter Coros. Et là, c'est quand même assez hallucinant de voir que vous avez tout le monde, y compris Decathlon, Adidas Running, Super Sapiens, enfin, c'est vraiment chouette, quoi.
Ouais, parce que ça s'est fait vraiment par étapes. En fait, au début, on avait que Strava, comme beaucoup d'autres plateformes, parce qu'en fait, Strava eux-mêmes centralisent Garmin, Coros, ouais, etc. Et puis, petit à petit, on les a fait un par un, quoi, par ordre de nécessité, entre guillemets, Garmin, puis un autre. Et encore, ça ne s'est pas fait vraiment dans ce ordre-là, parce que la politique des marques au niveau de l'ouverture des données n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où on s'est lancé, Garmin, il fallait payer un fees one-shot de 5 000 $ pour pouvoir accéder à leur API. Et nous, on s'est lancé dans nos lieux au début, on n'avait pas un rond. À aucun moment, on pouvait payer 5 000 $ pour avoir l'accès Garmin. Donc, on n'avait pas Garmin et on se disait, c'est chiant parce qu'on va devoir développer nos lieux assez et les premiers sous qu'on va récupérer, on va devoir tout réinvestir dans l'API Garmin parce que Garmin est tellement un acteur omniprésent et franchement on peut presque dire en monopole parce que les autres marques sont vraiment pas ridicules mais très très minoritaires par rapport à la part de marché qu'a Garmin. J'ai pas de stats mais c'est vrai que je pense que c'est hallucinant et du coup on avait un peu cette problématique là et on a eu la chance que 6 mois ou 8 mois après qu'on se soit lancé, Garmin et d'autres marques ont un peu changé leur fusil d'épaule et leur politique et en fait se sont dit il faut qu'on ouvre encore notre écosystème. Et ils se sont dit, ils sont passés à juste, tu fais une demande, tu as un dossier, tu justifies pourquoi tu veux l'accès à l'API et tu peux être accepté et refusé. Et ça, on a eu cette chance-là. Mais voilà, c'est vraiment bête parce qu'on s'était lancé un an plus tôt, on aurait payé peut-être 3 mois avant le fait qu'ils ouvrent de manière gratuite.
Ouais. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour celles et ceux à qui ça ne parle pas trop ce que c'est que l'API?
Ouais, bien sûr. Du coup, c'est vrai que j'ai même pas dit, je crois, ce qu'on faisait chez Nolio, donc du coup, je le présentais rapidement. Donc Nolio, c'est une plateforme de suivi, planification et analyse pour les sportifs et les entraîneurs. Donc à la base, c'est vraiment un outil métier pour les entraîneurs, pour gérer leurs sportifs, leur transmettre les entraînements, récupérer les feedbacks, récupérer les données des entraînements. Donc ça, c'est l'origine de Nolio. Et aujourd'hui, en fait, on se veut vraiment un outil aussi pour les sportifs, dans le sens où sur Nolio, tu vas pouvoir trouver ton entraîneur ou trouver un plan d'entraînement fait par un entraîneur. Et tu vas aussi pouvoir accéder à tout un tas d'outils d'analyse. Voilà, bon, ça qu'il peut y avoir aussi, c'est d'autres plateformes. Mais la plus-value qu'on va avoir sur le sportif, c'est soit j'ai déjà un coach, bah, du coup, la relation avec mon coach est simplifiée au niveau des données, j'ai une appli, etc. Soit je prépare un objectif, bah, en fait, sur Nolio, je vais pouvoir soit trouver un coach, soit trouver un plan d'entraînement fait par un coach de qualité sur Nolio. Donc si par exemple souvent on nous demande c'est quoi la différence par rapport à Strava, bah ça va être vraiment là-dedans, dans le sens où du coup sur Strava tu vas avoir le côté social et t'as aussi des outils d'analyse, mais t'as pas le côté je peux trouver un coach ou je peux trouver un plan d'entraînement qui est de qualité où je vais pouvoir avoir une interaction avec le coach. Mais pour répondre à ta question, du coup une API, en fait c'est Application Programming Interface en anglais. C'est un moyen de communiquer avec un service comme Garmin pour échanger les données. Et donc, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que dans le sens où on récupère les données, Nolio récupère les données d'entraînement de tel athlète, et ces données de running, etc. Et dans le sens inverse, c'est-à-dire que Nolio peut pousser des choses vers Garmin. Par exemple, un coach sur Nolio peut faire des séances avec des intensités, etc. Et ça va l'envoyer directement sur la montre Garmin, comme si on l'avait programmé en fait depuis son interface Garmin
Connect. Ok, excellent. Ouais, ce qui simplifie pas mal de choses, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que il y a quand même un certain nombre. Enfin, tu vois, il y a de plus en plus d'appareils connectés qui peuvent être utilisés à l'entraînement, de plateformes sur lesquelles ces données d'entraînement sont aspirées. Donc c'est cool d'avoir un outil qui peut centraliser et communiquer avec tous ces différents services de façon complètement fluide.
Ouais, c'est ça. Puis même moi, en tant qu'utilisateur, que ce soit dans le sport ou autre, j'aime jamais être trop lié à une marque ou à un service. Ouais. Et donc, par exemple, si un utilisateur a une montre Garmin, il peut télécharger tout son historique Garmin sur Nolio et ensuite venir acheter une Coros, par exemple, et il y aura une continuité dans toutes ses stats. Chose que, par exemple, si on utilise Garmin Connect, qui pour les stats, j'utilise aussi et fonctionne bien. Mais si on va acheter une Coros, on va avoir un trou. Coros, il n'y aura rien, et Garmin Connect, il n'y aura plus rien. Donc l'idée, c'est aussi de proposer ce service-là.
Et ça, c'est tout bête, mais c'est pas forcément la meilleure expérience. Tu vois, j'ai fait la PTL la fin août. Donc je sais pas si tu connais, mais c'est assez long comme course. Ouais. C'est 7 jours.
Bravo, vous avez fini?
Ouais, on a eu cette chance de finir 149 heures. Mais donc voilà, 149 heures. Du coup, avant ça, j'avais une Suunto qui m'aurait jamais tenu 149 heures. Et donc j'avais une Suunto depuis 2014 peut-être. Et donc j'ai basculé sur une Coros. Et voilà, tu vois, toutes mes activités de ces dernières années, tout ce que j'ai pu faire, mes premiers marathons, la Saint-Élion, les triathlons, semi-Ironman, j'ai tout perdu. Je ne l'ai pas perdu, mais ça veut dire qu'il faut que je garde l'application Suunto, même si je n'ai plus de montre Suunto, si je veux aller regarder tu vois, mes stats, mes chronos, etc. Bon, c'est un détail, mais quand tu as un historique de quelques années, ça fait quand même un peu mal quoi, de tout perdre.
Je fais ma pub, mais du coup, si tu veux, sur Nolio, tu peux brancher Suunto et Coros et tu peux récupérer tout ton historique. Donc, tu pourrais faire la somme de tout ce que tu... Et du coup, récupérer tout ça. Ouais.
Ah, excellent. Excellent, j'y avais pas pensé. Ok. Et
du coup, ta Coros a tenu sans recharge les 149 heures?
Alors, ils font je crois que leur pub, c'est 150 heures en mode un peu dégradé, 300 en mode carrément dégradé. Et moi, j'avais activé donc toutes les options, double GPS, GPS multiband, prise de position à chaque seconde, etc., la totale. Rythme, fréquence cardiaque au poignet. Et je l'ai rechargé une fois. Mais pas à bloc. Donc en fait, j'ai tenu sur, un cycle complet plus un quart de cycle. Tu vois, donc quand même hallucinant, quoi. Hein. Franchement, en termes de batterie, c'était un truc de fou. Et donc, ce qui est top, c'est que du coup, j'ai pu avoir la trace complète en une fois. J'ai jamais arrêté l'enregistrement de la trace.
Donc, ouais, après, il y a des petits outils qui existent pour fusionner.
Pour agréger.
Même quand on fait plusieurs. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de.
Ouais.
À la fin, quand on enregistre, ça a dû enregistrer un petit bout de temps avant de finir.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, même dans l'appli, tu vois, pour l'ouvrir, l'appli Coros, elle rame un petit peu, quoi. Il faut bien 10 secondes à chaque fois. Ok, excellent. Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as mentionné que je trouve hyper intéressant. C'est que finalement, le projet, il est né quand vous étiez encore étudiant. J'ai regardé un peu, je suis tombé sur un article que vous aviez fait, je crois, avec Devenir triathlète, où il vous posait aussi cette question de comment, enfin, à quoi ça ressemble la vie d'entrepreneur, le fait de se lancer dans un projet entrepreneurial quand on n'est pas encore diplômé, donc avec tout ce que ça implique, tu vois, des cours à suivre financièrement, c'est pas, voilà, il n'y a pas forcément énormément de réserves et il n'y a peut-être pas encore la maturité pour se dire, bah voilà où on veut aller et voilà ce qu'on veut faire de ce projet.
Ouais, bah c'est clair que nous c'était, je pense, une chance et puis en même temps voilà, quelque chose qui était un peu compliqué, c'est-à-dire que le côté chance c'est que du coup on s'est pas dit je mets all-in tout de suite, faut que ça marche, etc. C'est-à-dire que c'était un projet à côté des cours qu'on faisait vraiment pour le plaisir, qui nous passionnait, pour le sport. On allait faire une séance, on allait l'analyser dans notre app qu'on développait. On était, voilà, comme des fous, ou même un coach qu'on connaissait qui nous disait « Ah ouais, c'est bien, je commence à m'en servir avec des athlètes, etc. » Du coup, ça, c'était vraiment, vraiment super et on faisait vraiment sur notre temps libre. Mais en même temps, on le faisait à la passion. Donc, en fait, ça avançait beaucoup parce qu'on bossait vraiment de manière très efficace sur notre temps libre, etc. Et puis, il n'y avait pas ce côté pression… faut créer une boîte derrière, comment je vais être rentable, etc. Ouais. Parce qu'en fait, cette problématique n'existait juste pas dans notre tête. Et après, effectivement, le côté un peu le revers de la médaille, c'est que du coup, on s'est posé la question comment on va en vivre si on doit créer une entreprise autour de ça un peu tard. Mais en même temps, ça reste une chance quand même, je pense, même si on a dû penser le modèle économique un peu tard, dans le sens où on s'est toujours du coup concentré dès le début sur la valeur ajoutée pour le coach, pour le sportif. Et on l'a vraiment pas, voilà, on s'est pas dit il faut qu'on gagne temps, donc on va faire telle fonctionnalité pour et tel abonnement, et du coup on l'a fait plus en mode sur quoi les coachs ils galèrent, c'est quoi leur là où ils perdent le plus de temps et c'est quoi qui nous saoule le plus en tant que sportif, et on a bossé là-dessus. Et du coup, en fait, on a focus sur vraiment le produit et qu'est-ce qu'on allait apporter, et après derrière le modèle économique on l'a construit dans un second temps. Donc du coup, ça, c'était quand même, c'est pas classique, mais ça, c'était quand même assez, je pense, pour nous, ça a été la suite naturelle des choses, mais on avait un peu de la chance là-dessus. Et après, au niveau économique, la chance qu'on a eue aussi, c'est que, enfin, chance, c'est aussi lié à nos métiers, c'est que on a tout développé nous. C'est-à-dire que, voilà, faire une appli, on voit souvent des gens qui se lancent, je vais faire mon appli, etc. Mais quand on n'est pas développeur, faut bien s'accrocher au niveau des budgets parce que prendre un prototype, ça coûte 10 000, 15 000, 20 000 euros. Du coup, nous, en fait, on n'a pas du tout ces problématiques-là parce que c'était du temps. Bien sûr, c'est du temps, mais à deux, on a pu développer, en fait, de manière hyper efficace. Et donc, en fait, on avait besoin de, entre guillemets, de rien, si ce n'est quelques dollars pour faire tourner les serveurs. Mais au début, l'appli, il n'y a pas non plus 3 millions de personnes, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on avait très peu de coûts. On avait aussi la chance d'être en alternance. Bon, ça faisait encore une charge en plus. Mais du coup, on avait déjà un salaire en école d'ingé. Ce qui fait qu'en fait, là-dessus, c'est pareil. Ça n'a jamais été réfléchi. On ne s'est jamais dit on va faire une alternance pour créer une boîte parce que économiquement, ça nous aide, etc. Mais on a eu cette chance-là le fait qu'on soit développeur, c'est plus facile de bricoler un design en allant sur des pages sur internet, en regardant des tutos ou en faisant appel à des potes designers, que l'inverse, d'être designer et de dire ok, sur mon temps libre je vais apprendre à développer, parce que apprendre à développer, enfin, il y a aussi un côté expérience, il faut des années d'expérience pour faire des choses qui soient clean et développer de manière efficace, quoi.
Ouais. Et tu disais que le projet est né, enfin, vous le meniez plutôt pour vous au début, qu'il n'y avait pas forcément d'idée d'arriver sur une création d'entreprise. À quel moment est-ce que c'est devenu une réalité, ça ? Est-ce que vous vous êtes dit, go ?
Alors, je ne sais plus si au bout de combien de temps c'était. Je pense que ça devait faire 6 mois, 6-7 mois. Et en, c'est pas, ça n'a pas été un go que nous, on a décidé, entre guillemets. C'est le premier coach qui nous a dit, j'ai testé votre logiciel, ça me plaît, combien je paye? Et là, on a fait, ok, en fait, tu veux payer pour notre logiciel. On n'avait pas trop, on était un peu naïfs au début. Et c'est un peu ça qui a fait le shift où on s'est dit, ok, bah, du coup, peut-être qu'on peut en faire une entreprise. C'est là que toutes les questions sont arrivées. Peut-être qu'on peut en vivre, peut-être qu'on peut faire une entreprise. Si on veut en vivre, bah, nous, l'objectif, c'était de vivre, enfin, de se faire un SMIC. Donc, si on veut deux SMIC, du coup, parce qu'on était deux. Donc, si on veut deux SMIC, bah, comment on les sort tous les mois? Quel type de modèle économique on fait, abonnement, etc. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Et après, on s'est posé, du coup, toutes ces questions-là. Et on a fait, bah, si on le fera, voilà, on n'avait pas de contraintes, on n'a pas d'enfant, enfin, on n'avait pas d'enfant, on n'a toujours pas, mais on n'en avait pas, pas d'enfant, pas d'emprunt, pas de, voilà, c'est assez flexible, donc on s'est dit, bah, on se lance, même si on se casse la gueule, il va nous arriver quoi, pas grand chose, et ça aurait été, dans tous les cas, une belle expérience, une belle aventure, et on aura tenté, quoi.
Excellent. Excellent. Et aujourd'hui, l'équipe Nolio, vous en êtes où?
Alors là, on est 6 et demi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est 4 à temps plein, donc 2 avec mon associé, plus 2 à temps plein, qu'on a recruté notre premier CDI là en mars de cette année, et le deuxième CDI vient d'arriver là il y a 15 jours, plus 2 alternants, ce qui fait qu'on est 6, et je dis 6 et demi parce qu'on a un ancien alternant qui bosse beaucoup en freelance pour nous. Okay. Voilà, l'équipe, on reste une petite équipe, une PME, même pas, mais voilà, on se développe doucement, mais sûrement.
Génial, génial. Donc là, tu nous disais 5 ans, hein, c'est ça? La boîte est née, le projet est né il y a 5 ans?
Ouais, la boîte 3. À 3 ans, on aura 3 ans le mois prochain, et ouais, le projet a, ouais, un peu moins de 5 ans. Mais,
ok.
Ouais, là, il y a un peu moins de 5 ans, c'était, on commençait à faire mumuse une heure le soir pour déconner, quoi. C'était vraiment l'état d'idée, quoi.
Ouais. Et donc, tu dirais que ça a été quoi les grandes étapes de ces trois premières années officiellement, 5 en réalité? Et je te pose la question parce que, tu vois, c'est vrai qu'on voit, alors un peu moins depuis quelques temps, mais moi, quand j'ai lancé Papyrus, j'ai commencé à faire gaffe un peu, tu vois, aux news sur LinkedIn, sur les levées, etc. Et franchement, des fois, j'avais l'impression que tu avais des gars qui créaient une boîte, 4 mois plus tard, ils levaient 2 millions et un an après, ils la revendaient, tu vois. Enfin, un rythme absolument incroyable. Ça s'est calmé quand même depuis le printemps. Mais voilà, j'aime bien. Enfin, je te pose la question parce que je pense qu'il y a pas mal d'effets d'annonce, tu vois, de success story ou en tout cas de projets qu'on veut nous faire passer pour des success stories ou avec un rythme de développement absolument incroyable. Mais je suis pas vraiment sûr que ce soit la réalité de la majorité, de la très grande majorité des boîtes qui se créent en France. Donc, je serais curieux de savoir comment ça s'est passé un peu pour Nolio. Tu vois, à quoi ça a ressemblé ces trois, quatre, cinq premières années.
Non, c'est clair, et je pense que comme tu dis, c'est la partie émergée de l'iceberg quand on voit ces boîtes là, sachant que c'est pas la volonté de toutes les boîtes aussi de faire des trucs hyper rapidement et de revendre au bout d'un an, et généralement c'est pas tout le temps le cas, mais quand même à 90% des cas, les gens qui font ça, c'est déjà des entrepreneurs chevronnés, et ils ont eu une, deux, trois boîtes avant où ils ont soit galéré, soit pris de l'expérience, et c'est ce qui leur permet de voilà, à la quatrième boîte, de faire en 12 mois une licorne ou que sais-je. Mais nous, clairement, on était très, très, très loin de ça parce qu'à la base, on a une formation d'ingé. Donc, nous, c'était vraiment la tech, le produit. Donc, même LinkedIn, l'univers startup, les levées de fonds, etc., on n'en savait rien et ça, limite, ça ne nous intéressait pas. Et donc, du coup, il n'y avait pas du tout ce côté... je vois que les entreprises se montent, vont vite, etc. En fait, ce monde existait, mais il n'était pas visible pour nous, quoi. Et il a été visible assez tard. C'est-à-dire que, bah, du coup, au début, on s'est vraiment focalisé sur le produit. On s'est jamais posé ces questions-là. On voyait pas tout ça. Après, on a commencé à rentrer à un incubateur, qui est même pas je sais pas si on appelle ça un incubateur, mais tu connais peut-être les pépites, c'est les étudiants entrepreneurs, c'est la fac qui, il y a un statut national qui propose aux étudiants d'avoir un projet entrepreneurial. Et donc, il y a un accompagnement qui est lié à ça. C'est vraiment un peu pour les bébés entrepreneurs, mais du coup, pour nous, à notre niveau, c'était vraiment super. Donc, ils commencent à te familiariser un petit peu avec la levée de fonds, ce milieu un petit peu des startups, etc. Mais à l'époque, voilà, on était encore très focus produit. Donc, on regardait un petit peu ce qui se faisait, mais un petit peu de loin. Et après, on est rentré dans un incubateur à Annecy qui s'appelle l'Outdoor Sport Valley.
Ah oui.
Et là, du coup, un peu plus vrai incubateur, entre guillemets. Et donc là, voilà, là, on commençait plus à voir un petit peu ce qui se faisait, les boîtes qui levaient des fonds, etc. Et ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, aujourd'hui, on valorise beaucoup, sans mauvais jeu de mots, les levées de fonds des entreprises, que les startups, elles doivent lever des fonds, il faut lever des fonds le plus tôt possible, le plus vite possible, etc. Et en fait, nous, avec tout ce, à un moment presque, entre guillemets, à cause de ce milieu-là et des incubateurs, on se posait aussi beaucoup la question, et puisqu'il faut qu'on lève des fonds, l'incubateur qui nous disait, il faut que vous leviez des fonds, etc. Mais sans se poser la question, pourquoi, quoi. Parce que du coup, on dit, ouais, on va se lever des fonds et tout, ouais, trop super et tout. Puis un jour, il y en a un, je ne sais plus qui c'était, un bénévole qui nous accompagnait sur le projet, il nous a dit, mais attendez, posez-vous deux secondes, et pourquoi vous voulez lever des fonds? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous saurez quoi en faire? Et clairement, on lui a dit, bah non, de un, on n'a pas vraiment besoin d'argent, et même si on en avait, on ne saurait pas quoi en faire. Donc il nous a dit, arrêtez de votre délire, entre guillemets, de vous faire influencer par ce milieu-là. Là où, si vous savez ce que vous avez à faire au niveau du produit, au niveau du développement logiciel, bah faites-le. Et la levée de fonds, peut-être c'est une question qui se posera, mais plus tard. Et donc au final, on est un peu retourné au charbon et on a enlevé ce côté-là. Et du coup, en fait, nous, tout simplement, on n'en a pas fait du coup. Pour plusieurs choses, déjà, effectivement, on n'avait pas besoin d'argent, c'est-à-dire qu'on pouvait tout faire nous. Et le vrai truc aussi, c'est que même si on en avait, à l'époque de nos lieux, on n'aurait pas su quoi en faire, dans le sens où on se formait sur tous les sujets, le management, etc. Et en fait, nous donner des sous à ce moment-là, ça aurait été, je pense, une très grosse erreur, parce qu'on fait n'importe quoi. Et en plus, ça, on le répète de plus en plus, mais peut-être pas encore assez, lever des fonds, c'est un taf à temps plein aussi.
Ouais.
Ça prend, on dit 6 mois, mais c'est 6 mois presque si on a déjà un réseau, faire des slides, faire des présentations, etc. Et mine de rien, ça bouffe un temps énormément qu'on ne va pas passer sur notre projet, à développer notre logiciel, à trouver des clients, etc. Donc du coup, à ce moment-là, nous, c'est un peu, ça, c'était un peu la première partie. Et puis du coup, la deuxième partie de nos lieux, on s'est dit, bon, ok, on a commencé à avoir une V1 du produit, donc on est satisfait. Notre modèle économique, ça va être un business par abonnement. Du coup, c'est les entraîneurs qui vont payer un abonnement. Très bien. Du coup, maintenant, il faut qu'on trouve des clients. Et donc, ça, la deuxième phase, ça a été ça. C'est beaucoup de discuter avec des coachs, aller voir des coachs, leur faire des démos de la plateforme, essayer de les convaincre, en tout cas de leur montrer par A plus B qu'ils peuvent gagner du temps avec Nolio. Et donc voilà, ça a été c'était très très formateur, quand même beaucoup de refus, beaucoup de bah non, ça me sert à rien, alors que la personne va perdre énormément de temps, enfin on le sait pertinemment à faire son action répétitive. Mais après voilà, c'est la résistance au changement, on le voit même moi, des fois je me surprends moi-même, on me propose des choses où je pourrais gagner du temps et je dis non par défaut parce que j'ai pas envie de réfléchir à ça. Et en fait je me dis ouais, en fait je suis exactement l'archétype des coachs des fois que voilà, que j'ai démarché, quoi. Donc ça a été beaucoup nous à la main, quoi. On s'est un peu formé sur le tas. L'avantage, c'est qu'on parlait le langage sportif, parce qu'on est athlète, on a bien des coachs, etc. Donc ils voyaient qu'on parlait le même langage. Et donc du coup, ça c'était quand même un vrai plus que si on avait, par exemple, je sais pas, recruté un commercial. On pouvait pas, de toute façon, financièrement, mais admettons, qui aurait été plus dans une démarche, je vais vous présenter le logiciel. Nous, on était aussi vraiment dans une démarche. On est sportif et on veut aussi comprendre comment vous travaillez, pour voir si Nolio peut vraiment vous faire gagner du temps. Parce que effectivement, il y avait des coachs qui avaient tellement des méthodes rodées avec leurs fichiers Excel et ils avaient vraiment optimisé le plus possible. J'ai vu des coachs des fois qui avaient optimisé des flows à la Excel tellement loin qu'il y a des moments où on leur disait « Ouais, effectivement, avec Nolio, tu n'as peut-être pas gagné tant de temps que ça. » Donc en fait, c'est pas sûr que ça soit le plus pertinent. C'était très rare, mais il y en a eu quelques-uns. Et à ce moment-là, on leur disait « Bah ouais, j'ai très bien compris comment tu travailles. Effectivement, vu notre outil aujourd'hui, tu vas perdre du temps au début pour peut-être en gagner un petit peu plus tard, mais la balance n'est pas tant intéressante que ça.
Et donc, sur cette phase de prospection, vous étiez à deux, quasi à temps plein là-dessus?
Ouais, ça a été par période, mais ça a été surtout, enfin par période, mais un peu plus moi que mon associé. En gros, au début, on faisait tous les deux tout. Et puis à un moment, pareil, il y a quelqu'un qui s'est posé, qui nous a dit « Non, mais c'est pas possible, en fait. Il faut qu'au moins que vous preniez des casquettes un petit peu différentes, enfin qu'il y en a un au moins qui soit responsable de thème. » Donc moi, j'ai, sans vraiment raison particulière, mais j'ai eu un peu plus la casquette vente, enfin démarchage, entre guillemets. Et puis mon associé, plus la casquette technique, sachant qu'on fait tous les jours, tous les deux, toujours un peu des deux. Mais effectivement, du coup, après, ça a été un peu plus moi. Et là, après, ouais, le monde de la prospection, pareil, on pourra en reparler des heures. Ouais. Les mails, LinkedIn, ou carrément les appels directs pour essayer d'appeler les coachs. Ça, c'est, enfin, la première fois qu'on a appelé un coach comme ça, avec un numéro de téléphone sur un site internet, mais t'as la boule au ventre, t'as les mains moites. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que nous, les premiers, quand quelqu'un nous appelle et qu'on n'est pas prévenu, enfin, en quelques secondes, faut se faire désidentifier, ouais, comme vendeur de tapis, quoi. Faut que tout de suite, ça soit pas vendeur de tapis, quoi. Donc ça, c'est assez dur, quoi. Tu te dis, je vais les déranger, on s'est tous fait appeler des fois par des SFR ou quoi, c'est horrible, quoi. Donc
ça, comment vous avez fait? Parce que je suis curieux, je suis en plein dedans, tu vois, cette phase de prospection. Donc, tous les tips, je prends.
Ouais, bah, au début, déjà, pendant un certain temps, ça a quand même pas trop mal marché. On avait trop peur, entre guillemets, pour les appeler direct. Donc, en fait, on démarchait beaucoup par écrit, du LinkedIn, etc. Et après, on leur disait, est-ce que tu as du temps pour un meeting? Et du coup, un meeting qu'on a pris par écrit, bah, là, c'est très facile, quoi.
Ouais.
Et sinon, à un moment, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on passe, enfin, pas qu'on passe un cap, mais nous aussi, il faut qu'on sorte un peu de cette peur d'appeler. Et en fait, comme je disais, on a testé différentes choses. Des fois, ça marchait pas, mais d'être tout de suite dans « Salut, t'es entraîneur, mais je veux comprendre comment tu travailles. Est-ce que t'as un moment tout de suite ou est-ce que t'as un moment plus tard ?» Et pas du tout parler du produit, en fait. Je te dis que je suis sportif, je te dis que je suis athlète, je te dis que j'ai développé quelque chose, mais limite, je t'en parle même pas, je te dis même pas le nom. Pour pas que tu te dises, en fait, « Salut, c'est Alexandre, j'ai développé Nolio, c'est une super plateforme, tu la veux. » Et du coup, c'est voilà, ça on l'a fait au début, on voyait, c'était catastrophique, quoi. Même par message, hein, on voit nos premiers messages, « Bonjour, bam, regarde notre plateforme, regarde notre vidéo, bam, super. » Ouais, ça peut pas marcher, en fait. Et du coup, de remettre un peu, bah, le en fait, ouais, juste de comprendre la problématique de l'autre personne. Et dans un second temps, de lui dire, ah oui, du coup, bah, moi, je t'explique pourquoi je t'appelle, c'est pour ci, pour ça. Donc, c'est pas parfait, mais nous, pour la cible qu'on avait, qui est les coachs, ça a plutôt bien fonctionné. Et après, il y a aussi un cap à passer, c'est-à-dire quand Nolio, au début, on ne s'est pas du tout connu. Donc, on dit, j'ai développé Nolio, etc. Les gens disent, Nolio, c'est quoi ce truc? Et après, là, par exemple, maintenant, on va appeler un coach, même s'il n'utilise pas, la probabilité qu'il ait déjà entendu parler de Nolio, elle est quand même assez forte. Et donc, ça rassure, entre guillemets, parce que du coup, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de nulle part.
Ouais, tu arrives avec une certaine crédibilité déjà.
Ouais, plus la personne, elle a au moins déjà entendu une fois avant, plus, bah, du coup, bon, sauf si on l'a entendu de manière très négative, mais bon, c'est quand même rare, plus tu as de la chance que ça soit facile, quoi.
Ok.
Mais okay. C'est vrai que c'est pas une phase évidente du tout, quoi.
Ouais, effectivement. Bah, tu vois, je t'avais dit avant qu'on commence avec le fil rouge du podcast, c'était entre autres la résilience. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu cette période, mais ouais, moi j'ai un peu l'impression de devoir être résilient un peu tous les jours. Tu vois, quand tu envoies des messages, qu'il y a genre zéro réponse, qu'il y a des gens qui bookent des démos, qui se pointent pas. Bon, c'est comment vous l'avez géré ça d'ailleurs, parce que vous aviez relativement peu d'expérience. Donc, est-ce que le fait de pas avoir, tu vois. Justement, que ce soit votre première boîte, encore assez jeune, est-ce que tu dirais que ça a été un atout finalement? Parce que vous arriviez dans l'inconnu, donc vous n'aviez pas vraiment de référence. Ou est-ce que tu as le sentiment que ça vous a peut-être pénalisé ou fait perdre du temps, même s'il n'y avait pas d'objectif
En fait, assez vite, même on écoutait des choses, des podcasts, etc. Et bah, ça aide beaucoup. Mais on s'est vite rendu compte aussi qu'en fait, écouter un podcast et par exemple, pas le mettre en œuvre, bah, en fait, ça t'apporte pas grand-chose. Enfin, en fait, c'est bête, mais c'est bateau de dire ça, mais les erreurs, de le faire dans l'action, tu comprends en fait. Des fois, tu as des choses qu'on t'a entendues dans un podcast, tu dis « Ah oui, oui, bien sûr, c'est évident ». Et puis, tu comprends vraiment ce que la personne voulait dire quand en fait, tu t'es pris le vent ou tu t'es pris le mec qui t'a raccroché au nez, quoi. Et donc ça, bah ouais, ça c'est un peu, juste un peu la grosse chance, si on était, franchement, honnêtement, si j'étais tout seul ou même si je pense que mon associé était tout seul, on aurait probablement abandonné. Mais le fait d'être deux, c'est que tu te motives. Et puis des fois, si tu tombais sur la personne qui disait votre projet, il est super, j'y crois, franchement, c'est top, ça avait vraiment l'air trop bien. Et qu'il essayait et qui passait sur la plateforme, qui passait tous sa tête dessus. En fait, ça, un comme ça, ça te remotivait des fois pour des mois ou en tout cas des semaines, quoi. Puis des fois, il y a juste fallait faire des pauses, quoi. Des fois, par exemple, vous avez des sessions d'appel, t'en fais un, deux, trois, ça se passe bien. Le quatrième, ça se passe très mal ou en tout cas pas bien. En fait, t'arrêtes parce que des fois, c'est dur, trop dur de reprendre. Mais en même temps, faut pas se bloquer et se dire je le referai plus jamais. Donc faut trouver un peu l'entre-deux, mais généralement quand tu t'es pris une boîte entre guillemets par un mec, continuer derrière, ça va être compliqué parce qu'en fait tu vas être un peu plus stressé, moins à l'aise. En vrai il y a eu beaucoup quand même de naïveté. Si c'était à refaire avec toute l'expérience qu'on a, je sais pas si on aurait la motivation de le refaire entre guillemets. Mais faut beaucoup de naïveté et le fait qu'on était deux potes. Quand même dans l'aventure, ça c'était quand même vraiment cool de le faire à deux, quoi. De partager, de se dire on va boire une bière, on va se raconter les galères là. Enfin, toi aussi, tu t'as bien galéré cet après-midi sur un autre sujet. Ça permet de pas mal. Puis après, le gros côté aussi où on a pu se vider l'esprit et penser à autre chose, c'est le sport. On a toujours regardé le sport à côté et voilà, t'as une mauvaise pareil, t'as eu une galère, tu as un moment de creux dans le projet et tout, tu vas te faire une sortie vélo, tu te mets capot ouvert dans une montée, tu vas vraiment te mettre à 200%. En fait, tu rentres chez toi, tu es juste content que la séance soit finie et tu relativises, quoi.
Ouais, c'est un super point. Ça amène une question, tu vois, sur un autre sujet, peut-être une autre croyance. Croyance ou. Je sais pas si c'est une croyance ou encore une fois une image, tu vois, qu'on veut nous faire passer. C'est sur la gestion du temps et l'engagement quand t'es entrepreneur. Pareil, j'ai l'impression que ça s'atténue un petit peu. Ou alors c'est peut-être moi qui suis plus sensible aux messages qui disent l'inverse. Mais tu sais, pendant longtemps, il y avait cette croyance que être entrepreneur, en fait, ça veut dire travailler 14 heures par jour, 15 heures par jour, pas manger, pas dormir, et qu'en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se lèvent à 4 heures du mat et qui se couchent à 23 heures ou minuit, tu vois. Et moi, je suis plutôt, enfin, pour moi, ça, c'est absolument impossible, à titre perso. Je sais pas si j'ai raison ou pas, tu nous diras ce que t'en penses et comment vous avez fait avec Nolio, mais pour moi, c'est comme le sport, tu peux pas être à 200% en entraînement, H24, 7 jours par semaine, 15 heures par jour. Le repos doit faire partie, les coupures doivent faire partie de la prépa. Donc ça visiblement j'ai l'impression que c'est ce que vous avez mis en place assez naturellement, hein, c'est ça, de ce que tu expliquais là avec
au début pas vraiment, c'est-à-dire que au tout début c'était vraiment pour le plaisir, donc on y passait du temps par-ci par-là, c'était vraiment un loisir entre guillemets alors on a toujours gardé le côté sport parce que voilà, c'était quand même ça, c'était déjà impossible à enlever, et encore il y a des périodes où on a réduit un peu, mais il y a quand même une période assez pas mal saine, en gros, le moment où on s'est dit, bon, là, on lance la boîte, faut qu'on en. Donc, nous, on a, pour la petite histoire, entre guillemets, on a quand même eu la chance d'être alternant, ce qui donne des droits au chômage. Donc, en fait, on a créé la boîte, on a fini notre école d'ingénieur, on a fait créer la boîte et on avait 2 ans de chômage. Donc, c'est du chômage d'alternant, c'est très, très faible, mais ça paye le loyer et voilà, les pâtes et un tacos dans le mois. ouais, peut-être plus qu'un tacos quand même. On avait cette sécurité entre guillemets du chômage pendant 2 ans, mais on avait quand même cette pression de se dire bon, dans 2 ans il faut qu'on en vive, quoi. Alors bien sûr, au pire on aurait fait autre chose, on aurait retrouvé un travail, donc ça reste pas c'est pas la fin du monde non plus, mais bon, quand on était dans le truc, c'était ça. Et donc on a beaucoup bossé et c'est vrai qu'il y avait un côté, un moment où il faut bosser toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais parce qu'on se disait, on avait cette deadline-là de, dans 2 ans, il faut qu'on en vive. Et c'est vrai que même nous, on est tombé un peu à des moments dans le côté, dès que je travaille pas, je culpabilise. Par exemple, ouais, le week-end, ouais. Le sport, on a toujours fait du sport. Par exemple, si tu faisais du sport le samedi matin, tu rentres, l'après-midi, plutôt que de te reposer, d'être tranquille, etc., tu dis, attends, là, j'ai rien à faire de l'après-midi. Je culpabilise de pas bosser, donc je vais aller bosser. Et ça, on l'a fait beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense pas mal d'entrepreneurs vont peut-être se retrouver là-dedans. Et c'est vrai que, en fait, même par la force des choses, on a dû faire des fois des pauses ou des moments où on travaillait moins parce qu'on était vraiment cuit. On n'a jamais fait de vrai burn-out, mais vraiment des phases où on était vraiment dans le creux de la vague, quoi. Et c'est vrai que ça, moi, j'y croyais presque pas trop, entre guillemets. Par exemple, des gens qui me disaient, ouais, je suis en burn-out, etc. Je me disais, ouais, c'est bizarre, tu travailles beaucoup, c'est bon, prends 2 jours off et puis c'est bon. Et en fait, des fois, tu te mets dans des états où tu dis, ah ouais, en fait, je comprends ce qu'ils veulent dire, quoi. Vraiment, je le vois et je me dis, je comprends que si tu rebosses comme ça encore un mois à fond, en fait, je comprends que tu aies besoin de 6 mois derrière pour t'en remettre.
Ouais.
Donc, heureusement, il y a toujours eu le sport et on n'a jamais eu vraiment le côté le vrai burn-out, etc. Et on a toujours été deux aussi pour se remotiver. Des fois, l'autre, il était un peu dans le creux. On se remotivait. On se disait, bon, là, on va prendre 3 jours, on va faire autre chose. Et aujourd'hui, maintenant que on a un petit peu cette maturité-là, entre guillemets, où maintenant, on ne culpabilise pas dès qu'on a du temps libre. Et on sait que, même si on ne conscientise pas toujours, de ne pas bosser le week-end, en fait, tu seras probablement plus efficace la semaine.
C'est clair.
Lundi matin, tu auras plus envie que si tu as bossé en mode « putain, il faut que je bosse dès que j'ai un moment de temps libre ». Et au tout début, on le faisait naturellement. Et c'est vrai qu'à force de l'entreprise grossie, on se fait un peu bouffer par toutes les sollicitations qu'il peut y avoir, les notifs, il faut gérer tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Et c'est assez de plus en plus dur de le faire, mais en fait, de se bloquer des périodes où, par exemple, tel jour, tu vas travailler 3 heures à fond sur tel sujet, bloquer toutes les notifs, bloquer tout, de faire que ça. Et le monde extérieur n'existe plus pendant 3 heures et tu bosses sur ton sujet. En fait, des fois, 3 heures de ça, ça te fait 2 jours de si tu faisais d'autres choses en même temps et tu vivotais sur tes sujets, quoi. Et c'est pas toujours facile à faire parce que tu as toujours des urgences, machin, à gérer. Mais on se rend compte de plus en plus que... Et en fait, c'est quelque chose que tu fais naturellement au début du projet parce que nous, au début du projet, il n'y avait que le produit à faire. Il n'y avait pas d'histoire de client, il n'y avait pas d'histoire de support, d'entreprise, de compta, de juridique, de quoi que ce soit. Juste, tu codes et tu codes et t'avances sur ton truc. Et c'est bête, mais en fait, des fois, il faut essayer de retrouver ça, même si nous, on ne peut pas le faire. Voilà, forcément, c'est pas toujours facile. Mais... je me suis un peu perdu, je crois, mais dire que c'est important et je suis comme toi convaincu que travailler 14 heures par jour, c'est clairement pas un objectif, et même nous, ça n'a jamais été 14 heures par jour, on va pas se le cacher, mais il y a des périodes où en tout cas, il faut avoir de la chance aussi, mais il y a quand même des périodes où ça augmente des chances de réussite de beaucoup bosser.
Ouais.
Mais je suis quand même convaincu qu'il faut que ça soit temporaire et pas la norme de bosser tout le temps pendant des années. Quoi.
Ouais, non, c'est clair. Mais je te pose la question parce que tu vois, il y a quand même, t'as quand même des entrepreneurs clairement à succès. Je crois que c'est Elon Musk qui disait... il a toujours une approche très matheuse. Donc, j'avais vu un extrait de vidéo où il expliquait que si en gros tu travailles 1 heure de plus par jour que ton concurrent, en fait, sur 1 an, tu gagnes, je sais plus combien ça faisait de jours de taf, tu vois.
C'est vrai si t'es efficace.
Parce ouais, que
si
exactement.
Si t'es pas efficace au final et que tu fais tout à 80% parce que t'es pas à fond dans le truc et que t'es un peu blasé entre guillemets. Voilà, je pense que lui c'est pas du tout le cas et donc quand il bosse et donc effectivement ça marche. Mais c'est aussi pas tout le monde peut faire ça. Et puis, nous, nos lieux, c'est une grosse partie de notre vie. Mais à côté, il y a le sport, il y a quand même les amis. Il y a quand même, on a une vie de famille, entre guillemets. Enfin, voilà, on a tous les deux une copine avec François, mon associé. Enfin, voilà, ça reste aussi très important. Et, Et bien sûr, il y a des moments où on bosse beaucoup, mais même pendant les périodes de no-lieu, des fois on dit à nos potes, ben voilà, on peut pas trop se voir parce qu'on bosse beaucoup. Plus on avance, plus on se dit, ok, cette période-là, c'était comme ça pour lancer la boîte et c'est très bien qu'on ait fait ça. Mais maintenant, il faut qu'on prenne le temps le plus possible de, ben voilà, enfin, on n'a qu'une vie, mais ouais. De voir nos potes, de continuer à faire du sport. Enfin, ce qui est marrant aussi, c'est que tout début de no-lieu, quand on s'est dit, ok, on va créer un projet, et qu'au tout début de se dire, on va créer la boîte, on s'était dit, on va créer une boîte, comme ça, on pourra bosser un peu, mais on pourra surtout bosser comme on veut, et il fait beau tel jour, on va rouler, on va s'entraîner, on va faire du trail, et il fait pas beau le samedi, bah ouais, là, je vais bosser, parce qu'en fait, la veille, je suis allé sortir, de s'enlever ces contraintes de week-end, pas week-end, en fait, parce qu'on fait ce qu'on veut. Et on l'a fait un peu, mais c'est vrai que dans les faits, tu te fais vite rattraper par, tu le fais pas tant que ça d'aller quand il fait beau. On se force à le faire, mais pas assez, même.
Je crois que c'est chez Patagonia, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble que, alors, Headquarters, ils avaient la météo marine, ils ont des écrans dans le hall d'accueil avec la météo marine. J'ai pas lu le livre du fondateur, mais c'est un copain de chez Apple qui l'avait lu, qui m'en avait parlé. Et en fait, quand les conditions sont optimales, ils ont apparemment une espèce de système d'alerte où les gens peuvent du coup arrêter de taffer et aller surfer parce qu'ils sont juste au bord de l'eau. Donc, je trouvais ça assez ouf. Une idée pour Nolio quand vous aurez vos headquarters avec 200 personnes. Dès que les conditions sont optimales, tout le monde sort les vélos, c'est parti.
Ouais, en vrai, je pense que c'est vraiment une bonne chose, mais dans les faits, c'est vrai que quand tu te lances, c'est quand même c'est vrai que tu te fais, c'est difficile d'avoir cette sérénité là il y en a qui arrivent à l'avoir, franchement c'est beau, mais parce que c'est vrai que la contrainte économique de se dire bon, faut quand même, enfin, aller rouler 3 heures quand tu te dis ma boîte elle est en train de couler, ou faut que je paye mes salariés à la fin du mois. Techniquement, il faudrait que tu fasses ça pour être plus efficace derrière. Dans les faits, ça va être quand même compliqué, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, tu vois, par rapport à cette notion de, cette échéance que vous aviez de 2 ans avant de pouvoir vous payer, comment ça s'est passé?
Alors nous, du coup, on a eu la chance, et puis voilà, le fait qu'on a pas mal bossé, qu'on savait qu'en fait, on pouvait se payer au bout d'un peu plus d'un an. Donc payer un SMIC, quoi, mais on pouvait se payer. Et ce qui nous a permis, du coup, la deuxième année d'être un peu plus serein et de tout réinvestir pour tout ce qu'on générait en plus, pour commencer à avoir des stagiaires, des alternants, faire des finances, payer des prestations sur certains sujets, par exemple, notamment design, etc., où on était moins experts. Ce qui fait qu'en fait, ouais, au bout d'un an, on savait que ça allait passer, en tout cas pour nous, se payer au SMIC et donc de développer la boîte. Et après, du coup, au bout des deux ans, du coup, on a pu se payer. Donc, ouais, on a eu un an et quelques mois où on avait le doute. Et puis après, du coup, on savait que c'était pas forcément. On roulait pas sur l'or, mais on savait qu'on pouvait au moins se payer et que la boîte continuait et qu'on pouvait continuer à développer le projet.
Ouais. Excellent. Et donc, Nolio, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un peu des chiffres qui illustrent où est-ce que vous en êtes, le chemin parcouru?
Du coup, donc, nous, aujourd'hui, sur Nolio, on a un peu moins, quasiment 60 000 personnes là, en tout sur la plateforme.
Ah ouais?
Donc, alors, d'inscrits, bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui est actif. Actif, c'est entre 20 et 25 000 personnes. Un peu plus de 1 000 coachs, du coup, qui l'utilisent. Principalement dans les sports d'endurance qui sont cyclisme, triathlon et running trail.
Okay.
Et dans tous les pays francophones, donc notamment France bien sûr, Belgique, Suisse, Québec, un petit peu Luxembourg. Voilà, donc quand même principalement francophone pour le moment. Et du coup, on commence à, ça aussi c'est une fierté pour nous, travailler de plus en plus avec les fédérations. Il y a la Fédération d'Aviron qui prépare Paris 2024 avec Nolio, une grande partie de la Fédération de cyclisme. Et là, voilà, on est en train de plus en plus se rapprocher aussi de la Fédération d'athlétisme sur la partie performance. Donc ça aussi pour nous, en tant qu'athlète, c'est une grande fierté de se dire qu'on contribue aussi à l'essor et de participer, voilà, de voir des champions olympiques utiliser la plateforme. C'est une plateforme grand public, mais c'est vrai que c'est une fierté énorme d'avoir des champions olympiques. Et même quand un athlète nous dit Merci, ça m'a aidé dans ma performance vraiment. Voilà, j'ai, je vais pas dire j'ai eu la médaille grâce à vous, ça serait totalement faux et voilà de dire ça. Mais on a contribué à notre échelle, ouais, entre guillemets. On a fait notre pierre à l'édifice pour aider les athlètes et aider les coachs à mieux performer. Quoi.
Génial. Et c'est quoi à peu près la proportion dans les utilisateurs entre les athlètes individuels et les clubs et coachs?
En gros, là, c'est à peu près moite-moite, c'est-à-dire qu'il y a à peu près moitié de sportifs avec coach. Enfin, quand je dis avec coach, c'est avec coach ou dans un club avec un coach. En gros, dans Nolio, c'est à peu près la même chose, même si Nolio peut être utilisé pour des clubs, pour gérer plus des groupes loisirs que pour des entraîneurs pour la partie perf. Donc, dans l'utilisation, c'est pas vraiment la même chose. Ils sont quand même plus proches entre eux qu'un sportif qui l'utilise sans entraîneur. Donc, en gros, c'est ça, 50% avec un entraîneur ou dans un club sur Nolio. Et 50% sans.
Okay.
Sachant que du coup, là, il y a peut-être que ça sera déjà probablement d'ailleurs sorti sur Nolio quand on sortira ce podcast. Enfin, quand tu sortiras ce podcast, c'est qu'en gros, sur Nolio, actuellement, un sportif sans entraîneur, on lui propose pas grand-chose dans le sens où on lui propose surtout de soit ramener son entraîneur sur la plateforme s'il en a déjà un, soit de suivre ses entraînements avec tout un tas d'outils d'analyse qu'on a développé qui sont cool, mais il n'y a pas une plus-value incroyable par exemple par rapport à utiliser Strava, si ce n'est qu'il y avait une partie pour se faire son propre coaching, donc en fait la version coach pour soi-même. Je vais me préparer tout seul à mon prochain marathon, je peux me faire mon plan, ouais, sur Nolio, etc. Ça clairement tu peux pas le faire sur Strava ou autre. Mais bon, c'est quand même pas la majorité des gens qui se font eux-mêmes leur plan ou qui sont ouais, assez passionnés d'entraînement pour construire leur séance, etc. Et en gros, la brique qu'on sort là, d'ici normalement une ou deux semaines, c'est que sur Nolio, du coup, il y aura vraiment un espace où les coachs qui veulent apparaître seront listés et tu pourras trouver des plans d'entraînement faits par les coachs. Donc en fait, ce que je disais un petit peu au début, voilà, dans la présentation de Nolio, parce que c'est vrai que c'est maintenant le message qu'on veut transmettre, c'est sur Nolio aussi, même si tu es sportif sans entraîneur, bah, tu peux venir et on va t'aider à atteindre ton prochain objectif, soit avec un plan d'entraînement de qualité, soit directement te mettre en relation avec un coach.
Excellent. Génial. Ah, c'est pas mal ça.
En fait, c'est vraiment simple. C'est ça parce que de plus en plus dans leur tête, les sportifs identifient Nolio entraînement, entre guillemets, ou en tout cas Nolio préparation. Et on a... là, depuis plusieurs mois, des dizaines de messages par semaine de sportifs qui nous disent « Je prépare la Saint-Élion, je m'entraîne trois fois par semaine, etc. etc. Qu'est-ce que vous proposez ?» Et actuellement, on ne leur propose pas grand-chose parce qu'en fait, nous, on n'a pas vocation, on n'est pas une plateforme. On ne fait pas du coaching chez Nolio.
Ouais.
Les coachs utilisent notre plateforme. Et donc, en fait, on leur répondait bah, « On n'a rien de spécifique » ou alors « On te recommande tel coach parce qu'on les connaît bien, mais c'était manuel à l'écrit. » Et en fait, du coup, il y a vraiment ce besoin-là. On voit des gens qui cherchent à se faire accompagner sur leur préparation, et ce qui est normal. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'apps sur cet aspect-là. Mais nous, ce qu'on veut apporter, on veut se différencier par rapport à pas mal d'apps aussi, c'est d'avoir toujours le côté humain. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'apps d'intelligence artificielle, etc. Et qui, quand on débute, je pense qu'ils sont vraiment bien pour se faire accompagner plutôt que d'avoir un plan PDF dans le Running Magazine. Même si c'est toujours mieux que rien, en tout cas c'est plus ludique, mais nous on veut apporter le côté, même si tu achètes un plan bateau entre guillemets, même si nos plans ne sont jamais bateaux faits par l'entraîneur sur Nolio, tu as toujours l'option d'aller discuter avec l'entraîneur qui a fait le plan et potentiellement s'il a des places, d'aller plus loin et dire je t'ai acheté ton plan d'entraînement 40€, mais en fait au bout de deux semaines je suis perdu. Est-ce que tu peux me prendre en coaching ou je veux que tu sois au petit soin et que tu me fasses mon plan, tu me le refasses de A à Z avec mes contraintes. Donc en fait, d'avoir ce panel de services, tu peux prendre un plan un petit peu bateau entre guillemets chez Nolio, mais tu peux surtout, si tu veux aller plus loin, discuter avec le coach, voire le prendre en coaching individualisé. Chose que sur une plateforme d'intelligence artificielle, par exemple, tu peux pas. Pour aller plus loin, peut-être la version premium, mais tu n'auras jamais de contact avec un vrai coach. Et nous, on croit vraiment au vrai coach, dans le sens au côté humain, en fait, tout simplement. Et on fournir, l'objectif, c'est de fournir de plus en plus d'outils aux coachs pour que les tâches, entre guillemets, rébarbatives soient simplifiées. mais que le côté relation humaine, côté psychologique aussi. J'ai un coach aussi parce que quand j'ai pas envie, si je me fais moi-même mon plan d'entraînement, je vais au bar, machin, j'ai une contrainte, je vais bâcher ma séance. Alors que si j'ai mon coach, il va falloir que je justifie que j'ai bâché ma séance.
Et là, c'est pas la même.
Je vais me débrouiller pour la faire parce que j'ai pas envie de lui dire non, désolé, j'ai pas fait ma séance. Donc, y a aussi ce côté, heureusement qu'on prend pas un coach juste pour ça parce que sinon, ça serait un peu dommage. Mais voilà, il y a aussi ce côté motivationnel et puis même d'échange, de conseils, de mise en confiance, avoir la course, etc. Des choses qui ne pourront jamais remplacer une app. Enfin, en tout cas, une app seule sans avoir ce côté coach.
Sachant qu'on on a pas mal évoqué le triathlon, le cyclisme, l'athlète, etc. Mais en fait, il y a énormément de sports qui sont dispo, qui sont en tout cas listés sur Nolio. Je vois qu'il y a même le judo.
On est vraiment une plateforme multisport. Bon, de par essence, mon associé vient du ski de fond, donc tu vois, c'est un peu un sport pas réservé à certaines personnes, mais voilà, qu'on peut pas faire partout, il y a pas tant de monde qui en fait ça. Moi, je viens de l'athlé, c'est pas des sports qui sont très éloignés, mais il y a quand même des grosses différences. Et donc, on s'est dit tout de suite, en fait, nous, on veut pas faire la plateforme du vélo ou la plateforme de la course à pied. On veut faire quelque chose de multisport et bien sûr, les spécificités par sport, les intégrer. Quelqu'un qui va faire une analyse d'une séance de course à pied sur Nolio versus une analyse de séance de vélo, il y aura des choses différentes qui sont liées à du sport. Mais on s'est dit, en fait, un carnet d'entraînement, enfin voilà, une plateforme d'entraînement, il y a quand même une grosse base commune. Qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement? Comment je me suis senti? La relation avec mon coach, l'intégration des données connectées, etc. Donc aujourd'hui, on a quand même bien sûr un gros ADN endurance et on gardera ça. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a il y a des utilisateurs comme le judo, tu l'as mentionné, ou même dans un club, on a plusieurs clubs d'escrime, où en fait, ils utilisent Nolio juste pour. Je transmets les entraînements à mes athlètes et je regarde ce qu'ils ont fait et j'échange avec eux, je débrief. Et effectivement, on n'a pas d'outil d'analyse spécifique des séances d'escrime. Mais en fait, eux, dans leurs besoins, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin d'un outil qui fonctionne bien sur transmettre ce qu'il faut faire, regarder ce que l'athlète a fait, que ça soit accessible sur mobile, que s'il y a des données de sommeil, etc., prises sur la Garmin ou autre, ça soit remonté sur la plateforme. Mais en fait, bien sûr, c'est pas la majorité, mais ça convient très bien à leurs besoins et nous, on a volonté à garder ce côté multisport où du coup, en fait, puis même, on voit de plus en plus dans les sports, typiquement le trail ou le running, de plus en plus de sports croisés, de plus en plus en trail, on va faire aussi beaucoup de vélo pour faire du volume, des étirements, du PPG, du crossfit, des exercices de respiration, etc. Où en fait, pas tous les sports, mais de plus en plus de sports s'ouvrent aussi à pas faire que du vélo, ou encore le vélo. C'est quand même un sport où il faut beaucoup rouler, il faut beaucoup faire que du vélo. Mais c'est-à-dire quand on fait du vélo en compétition, faire de la course à pied à côté, ça va pas être très, très efficace. C'est pas un très bon exemple, mais.
J'ai changé sur ce sujet avec une invitée qui est judokate. Et qui est judokate, qui est médaille olympique à Londres de l'équipe belge. Et en fait, elle expliquait qu'elle a, pour différentes raisons, tu vois, elle s'est un peu éloignée de sa fédé, et elle en est arrivée à faire des entraînements dans des disciplines qui ont juste rien à voir avec le judo. Type tu vois du kitesurf, je sais plus exactement dans quel sport elle s'était lancée, mais elle expliquait que ça lui apporte énormément parce que ça elle sollicite des groupes musculaires qu'elle sollicite pas forcément en judo, et puis ça développe plein de choses, tu vois, sur l'équilibre, certains mouvements, certains gestes qui lui permettent de gagner en amplitude sur des prises de judo. Donc je suis assez d'accord avec toi. Bon, même s'il y a des disciplines, je pense la natation typiquement, tu vois, faut compter les carreaux, les carreaux. Mais t'en as où ça peut faire du bien de faire autre chose, quoi.
Faire du vélo, ça est difficilement transposable pour la natation.
Ouais, c'est clair. Mais ok, hyper intéressant. On se dirige doucement vers la fin. Du coup, je serais curieux peut-être de te poser quelques questions. On va revenir un peu sur toi et sur tes apprentissages de cette expérience entrepreneuriale. tu disais aujourd'hui, voilà, tu viens d'avoir 27 ans. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté cette expérience Nolio si tôt dans ta vie finalement?
Ouais, en vrai, plein de choses. Au-delà du côté humain, d'avoir une aventure comme ça humaine avec mon pote qui est devenu mon associé à la base, puis maintenant il y a une équipe. Voilà, c'est super, vraiment super cool. Il y a aussi un côté maturité où nous, c'est bête, mais nous on est développeurs, donc de base, t'es vachement dans ta technique, dans ton coin. Ça nous a quand même beaucoup ouvert sur beaucoup d'autres choses, d'autres aspects qui sont intéressants. Et même dans quand on parlait du démarchage, etc., bah, ça, même en termes de, ouais, pas tous les, on va dire, on va pas être dans les clichés, pas tous les geeks sont introvertis, mais quand même un peu. Et donc, du coup, voilà, naturellement, on va pas être trop dans le, et du coup, de s'être forcé un petit peu à faire ses appels, à sortir de sa zone de confort. En fait, ça, au-delà de ça, même faire des appels maintenant pour d'autres choses, etc., c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est des choses très spécifiques, mais après, on a rencontré aussi plein de gens super dans les incubateurs, enfin, surtout des bénévoles, en gros, qui venaient partager leur expérience d'autres entreprises ou de ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Et non, c'est surtout je pense, au-delà du fait que je pense qu'en des années d'entrepreneuriat, tu apprends beaucoup, beaucoup plus de choses que. Si par exemple, nous, la voie classique, ça aurait été d'être ingénieur dans une boîte, ce qui aurait été, voilà, potentiellement aussi très intéressant, plus sur la partie technique. Mais là, il y a eu la partie technique et puis tous les autres sujets autour qui sont hyper passionnants. La compréhension du milieu de l'entreprise, mais vraiment dans le sens milieu de l'entreprise de A à Z, quoi, savoir combien ça te coûte un salarié, voilà, d'avoir ce côté management aussi, où du coup, il faut gérer des personnes. À notre échelle, hein, sachant qu'on est 6, c'est une toute petite boîte. Ça n'a rien à voir avec une boîte où il faut faire du management pour 50 personnes, mais déjà à ce niveau-là. Le côté recrutement aussi, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait d'être de l'autre côté. On a toujours été du côté des recrutés, et là, on est du côté des recruteurs. Donc, c'est aussi, même si ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus, c'est quand même un sujet qui est hyper important et intéressant de se comprendre un peu les rouages, quoi. Donc ouais, pour résumer, c'est vraiment tout ce que ça nous apporte de manière pluridisciplinaire. Plus au côté technique aussi, pour nous, ça a été aussi très intéressant parce qu'en fait, on gère tout de A à Z. Donc, par exemple, si tu vas dans une entreprise, le côté technique, tu es contraint par la stack technique de l'entreprise, très souvent. Là, on a la main sur tout, donc on peut tout optimiser, faire nos... Puis il y a aussi, entre guillemets, une pression dans le sens où bah, aujourd'hui, maintenant, on peut plus se permettre de faire n'importe quoi si Nolio est... Ça nous a déjà arrivé, nos Nolio, par exemple, là, s'arrête pour quelques heures parce que notre serveur, il est cassé. On va recevoir, je sais pas combien d'appels et de SMS de coach qui me dit, là, je peux plus bosser, etc. Enfin, bon, bref, ça, du coup, ça fait que techniquement, tu peux pas te dire, je fais mon truc pour ma boîte et puis au pire, quelqu'un va réparer une erreur. Et puis, ouais, le côté humain, franchement, c'est assez fou aussi de tous les gens qu'on rencontre. C'est assez, assez incroyable. Et puis ouais, de manière générale, c'est vrai qu'au niveau maturité, je pense que je serais vraiment moins mature si j'avais pas fait cette expérience-là et si j'étais allé en fait dans une boîte, si on est employé, je pense qu'on va plus être dans une routine que nous on a très peu, donc en fait ça va être un peu plus c'est naturel, quoi, mais forcément on va probablement moins apprendre et moins sortir de sa zone de confort. Donc ouais, non, c'est vraiment... Puis là, on continue, on dit souvent qu'on est qu'au début parce qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est vrai que... Je ne sais pas toi ton avis de création d'entreprise, mais je trouve que c'est vraiment... Ouais, ça sur plein d'aspects, c'est très, très enrichissant.
Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté... Le fait d'engranger de l'expérience très rapidement finalement et sortir de sa zone de confort, c'est vrai que ouais, moi je le vois, même si ça a démarré qu'il y a un an, Papyrus, je pense que une des raisons pour lesquelles je le vois vraiment ce côté, tu vois, or le fait d'être hors de ma zone de confort, c'est que je viens d'une boîte, j'ai passé 7 ans chez Apple, qui est une boîte où tout est absolument normé, contrôlé au millimètre. Et finalement où la prise de décision elle se fait très 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 haut, et globalement t'as 90% de la boîte qui ne fait que appliquer tu vois des décisions des décisions prises à Cupertino aux États-Unis. Et du coup, là, le fait d'être, finalement, quand t'es entrepreneur, tu décides de tout, quoi. C'est toi qui, tu vois, qui décide de quand tu payes tes fournisseurs, quand tu lances, je sais pas, quand tu mets en ligne une offre, le temps que tu vas passer sur du démarchage, un truc tout bête, mais la structure de ta boîte, le capital, enfin, tu décides absolument de tout. Et c'est à la fois hyper intéressant et gratifiant, mais de l'autre côté, t'as quand même une prise de risque qui est quotidienne, tu vois. Nous, on n'est pas encore au point où on peut se payer tout à fait correctement. La pression dont tu parlais, tu vois, que vous aviez au début, nous, on est en plein dedans. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est très, très riche. C'est un peu comme un trail, tu vois. Il y a des hauts, des bas. Faut pas perdre de vue la ligne d'arrivée, je pense, et ce pourquoi tu t'es lancé sur la course. Mais très, très riche.
Dans tous les cas, c'est sûr aussi que c'est pas facile d'entreprendre pour tout le monde, et c'est plus facile, nous, on l'a fait en sortie d'école, c'était vraiment facile. Le faire quand t'as deux enfants, un prêt, et par exemple que, je sais pas, une personne de ton entourage, tu dois t'occuper d'une personne de ton entourage pour X raisons, parce qu'elle va pas bien, etc. Ouais, tout le monde, enfin, il y a aussi, je comprends aussi, tout le monde ne peut pas entreprendre, quoi. Et toi, probablement que c'est plus dur aussi, et surtout après. Nous, on a toujours été, on a été étudiant, puis alternant, tu gagnes pas des milliers de cents non plus. Passer d'un statut très confortable de salarié, où du coup, t'as quand même un salaire, qui est assez aisé, je pense, etc., à, entre guillemets, rien, en tout cas, repartir de zéro, ça aussi, je trouve que c'est, enfin, je me dis que ça doit être beaucoup plus dur, même si on l'a pas vécu, que de, comme nous, on avait rien à perdre, tu dis l'alternance, tu gagnais pas grand chose, j'arrête pas un job où je suis, entre guillemets, bien payé, où c'est quand même intéressant, etc., pour repartir de zéro.
Ouais. Non, en tout cas, écoute, je pense que chaque situation, tu vois, est différente, avec des enjeux qui sont différents. Mais je trouve hyper intéressant de voir comment vous avez réussi à partir d'un projet quelque part que vous faisiez un peu pour vous. Tu vois, parce qu'il y avait cette envie de créer quelque chose de mieux que ce que vous aviez, c'est-à-dire les fameux fichiers Excel customisés. Et de voir aujourd'hui que c'est déjà une boîte quand même vachement implantée, parce que si vous avez plusieurs fédés qui vous utilisent, c'est quand même, comme tu disais, c'est hyper gratifiant, et un sacré signe de reconnaissance. Et puis tu parlais, tu vois, du fait que l'aventure n'en est qu'à ses débuts. C'est quoi, du coup, les grandes prochaines étapes pour Nolio?
Du coup, comme je t'ai mentionné, là, une des grosses étapes, quand même, c'est qu'aujourd'hui, de mieux servir, en tout cas de proposer une offre un peu plus... Enfin, de proposer une offre un peu plus grand public via tout ce qu'on a mentionné sur préparer son objectif avec Nolio. Ça, c'est quand même un gros cap pour nous. Et après, la deuxième partie qui va être quand même assez importante, je pense, c'est le côté... de tester cette offre-là et voir à quel point c'est utile pour les sportifs. Et après, ça va être le côté aussi qui n'est pas vraiment pour tout de suite, je pense qu'il est plutôt sur 1, 2, 3 ans, mais le côté internationalisation, voir à quel point on sait qu'on sert très bien les coachs, on fera les sportifs en France, en tout cas dans les pays francophones. Aussi parce qu'on a eu de chance, cette opportunité-là, que les apps en France, en tout cas développées par des boîtes françaises, l'offre honnêtement était quand même de moins bonne qualité que des applis qu'il peut y avoir américaines qui existaient déjà. Et donc, de voir à quel point, là, maintenant, on va pouvoir se confronter à des apps qui sont plus rodées, qui ont 10-15 ans. Ouais. Voir avec notre valeur ajoutée si ça intéresse. Parce que faire basculer un coach d'un fichier Excel à Nolio, où on sait qu'on va lui faire gagner du temps, je ne vais pas dire c'est facile, mais voilà, il y a toujours cette résistance au changement. Mais on a des arguments. Le faire basculer d'une app qui, souvent, il y a quand même des apps qui sont quand même déjà très bien aussi sur le marché, qui sont rodées. De construire une valeur ajoutée là-dessus, ça va être aussi un gros challenge pour nous, de voir à quel point on peut apporter des choses aussi à ces coachs là qui utilisent déjà une app qui fonctionne bien, voir ce qu'on peut encore améliorer et les servir, voir peut-être que ça sera pas le cas, mais en tout cas ça sera un beau challenge, je pense, qui va arriver sur les prochaines années aussi.
Top, internationalisation, excellent, cool. On arrive au bout. Ce serait quoi le mot de la fin que tu aurais envie de partager, toi?
Déjà, merci pour l'invitation, c'est toujours cool de partager. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts quand on se lançait, j'en écoute toujours beaucoup, mais c'est vrai que petit à petit, enfin, c'est plein de petites choses qui nous ont permis de gratter des infos et de se conforter ou de comprendre des choses. Donc, si moi je peux partager un peu ce qu'on en a appris, ben voilà, c'est toujours avec plaisir parce que je sais que ça m'a été bien utile. Donc, si ça peut être utile à des gens, c'est cool. Et ouais, si j'avais un conseil, si quelqu'un voulait se lancer, c'est vraiment de se lancer le plus tôt possible et de pas hésiter à se lancer en parallèle de son job ou de ses études pour, et puis retarder, entre guillemets, le plus possible la création de la boîte, c'est-à-dire, voilà, tester le plus possible le projet le plus loin possible sans risque. Puisque du coup, si on fait sur notre temps libre à côté de notre job ou à côté de nos études, et de se lancer quand on est un peu plus sûr, ou en tout cas, voilà, de gagner ce temps-là. Quoi. Parce que nous, typiquement, on a gagné un an et demi quand on était encore en école, qui fait qu'on bah, on a vraiment gagné, même si on n'était pas à temps plein, on n'a pas vraiment gagné un an et demi, on a peut-être gagné 10-12 mois, en fait, de maturation, de j'avance sur le projet, etc., sans avoir cette pression de bam, je crée la boîte, donc je crée une boîte, il y a des charges qui tombent tous les mois, il faut se payer, etc. Donc vraiment pour se lancer le plus tôt possible et très vite aussi, ce qu'on voit, ça c'est évident, enfin, on le redit encore pas assez, mais d'aller voir tout de suite ses clients potentiels en tout cas et voir et leur filer quelque chose dans les mains et voir si c'est utile pour eux ou pas.
Top, excellent. Bah écoute, un grand merci Alexandre. C'était juste
merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir.
Avec grand plaisir. Passionnant de voir comment vous avez mis tout ça en place et comment vous avez amené Nolio là où la boîte en est aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui veulent aller voir Nolio, c'est nolio.io, www.nolio.io. Il y a des offres, il y a une offre gratuite et l'offre pour les athlètes, l'offre premium qui est à 6€ par mois, il y a 14 jours offerts, donc n'hésitez pas, ce n'est pas un épisode sponsorisé, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir,
ça a l'air vraiment pas mal. Honnêtement, on propose une offre sportive qui est vraiment gratuite, qui est très complète, où il y a vraiment plein de choses sur l'analyse, etc. Et la partie payante, en fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est l'offre coaching pour soi-même.
Ouais.
Donc elle ne sert pas forcément pour tout le monde. Et déjà, si on veut tester l'offre gratuite, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment plutôt très complet.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre. Tout le meilleur pour la suite. Et puis, écoute, on va suivre avec attention le développement de Nolio.
Merci. Et puis bon courage pour toi aussi avec Papyrus.
Merci beaucoup. Salut Alexandre.
Salut.